Donc voilà, donc nous commençons notre premier jour donc, du séminaire intitulé Évangile et culture. Et comme nous l'avons expliqué, nous voulons à travers ces trois jours expliquer et démontrer la nocivité des cultures, des traditions dans notre vie. Nous voulons montrer comment la culture peut être et en réalité est un véritable ennemi de l'Évangile. Ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, ce qui nous empêche de grandir, même dans la connaissance de Dieu, quelquefois est lié au fait que nous soyons encore attachés à certaines cultures, attachés à certaines traditions. Nous sommes dans un temps où, c'est vrai, nous entendons beaucoup de plaintes. Beaucoup de personnes cherchent à voir la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes, sont comme Gédéon, demandent au Seigneur, mais où sont les exploits d'autrefois? Où sont les exploits qui étaient dans la parole de Dieu? Où sont les miracles que les apôtres faisaient? On ne voit plus des boiteux marcher, on ne voit plus des aveugles voir. On cherche à voir la gloire de Dieu dans notre propre vie. Et quelquefois, on ne comprend pas toujours. C'est comme si le Seigneur était loin. C'est comme si le Seigneur n'entendait plus. C'est comme si le Seigneur ne voyait plus. Mais le Seigneur dit, est-ce que moi qui ai fait les yeux, je ne verrai pas? Est-ce que moi qui ai créé les oreilles, je n'entendrai pas? Dieu voit, Dieu entend, Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors le véritable problème, c'est que lorsque Dieu n'agit pas, c'est que lorsque le Seigneur paraît être loin et insensible aux cris de nos prières, c'est que le véritable problème vient de nous. Nous avons partagé il y a quelque temps sur les attaques de l'ennemi. Et on avait parlé que l'ennemi pouvait procéder aussi par des attaques qui étaient beaucoup plus sournoises, des attaques indirectes. Celles qu'on ne voyait pas forcément, celles qui étaient difficiles vraiment à détecter, difficiles à discerner. Et parmi tous ces instruments que l'ennemi utilise encore aujourd'hui afin d'éloigner le peuple, d'éloigner les hommes de lui, de Dieu, c'est en passant par la culture, qui peut paraître, je dirais, comme une manière de vivre selon les peuples, quelque chose de tout à fait normal. Quelque chose de tout à fait naturel. Mais en réalité, lorsqu'on examine les pratiques qui sont faites dans les cultures, nous pouvons observer, nous pouvons comprendre que les cultures sont en ennemi de Dieu. Donc ce sont des choses qui peuvent être passives, des choses qui ne font pas, je dirais, du mal à l'homme d'une manière directe, mais qui éloignent l'homme de Dieu. Parce que dans la culture, il y a une certaine éducation qui est donnée, il y a une certaine pensée qui est transmise, de voir la vie d'une manière différente de l'Évangile, de voir la vie selon le mode des hommes. Parce que la culture ne vient pas de Dieu, mais la culture vient des hommes. Et nous avons besoin d'être totalement détachés de tout ce que nous avons reçu des hommes afin de véritablement vivre la gloire de Dieu, de vivre la véritable présence de Dieu dans l'Église et dans nos vies. Mais si nous ne prenons pas conscience que les cultures sont négatives à notre marche avec le Seigneur, alors elles sont un véritable obstacle pour notre croissance spirituelle, elles sont un véritable obstacle pour notre communion avec Dieu. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de nous amener à prendre conscience que les cultures sont dangereuses et elles nous éloignent de Dieu. Il est écrit dans Deutéronome 28, à partir du verset 1er, Deutéronome 28, il est écrit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Et par la suite, le Seigneur donc va citer une liste de points, en tout cas liés à la bénédiction, en fonction de notre obéissance. Donc nous voyons là que depuis l'Ancien Testament, la volonté de Dieu a été de bénir son peuple, mais cette bénédiction a été au conditionnel. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, Jean 15, au verset 7, il est écrit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Il y a là encore la même logique que le Seigneur, la même logique que le Seigneur enseigne à ses disciples. Si vous demeurez en moi, C'est-à-dire que si vous mettez en pratique mes commandements, si vous vivez selon mes directives, selon les commandements que je vous laisse, alors tout ce que vous demanderez, eh bien, vous le recevrez aussi. Donc la condition pour recevoir des bénédictions, la condition pour être écouté de Dieu, c'est de pratiquer sa parole. Donc nous voyons que le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu, donc Dieu n'a pas changé. Et s'il agit ainsi autrefois, soyons certains que c'est encore valable aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Les bénédictions de Dieu sont au conditionnel. Donc nous ne pouvons pas vouloir vivre les promesses de Dieu, vivre la plénitude de Dieu, tout en gardant avec nous des choses qui sont en abomination au Seigneur, des choses qui sont contradictoires à la logique même de la Bible. Il faut qu'à un moment donné, nous nous positionnons afin de savoir ce que réellement nous sommes devenus. Est-ce que je me sens aujourd'hui plus français que chrétien? Est-ce que je me sens plus chinois que chrétien? Est-ce que je me sens plus congolais que chrétien? Si c'est le cas, alors c'est normal que je ne vive pas les réalités et le plan de Dieu. Si je mets le nom de ma tribu en avant, plus que même le nom que Dieu m'a donné, c'est qu'il y a un problème de conversion. C'est que je ne suis pas véritablement né de nouveau, ou bien je le suis, mais je garde avec moi certains traits de ma vie d'autrefois, parce que c'est ça qui fait mon honneur, c'est ça qui fait mon identité. Donc si j'emmène dans la vie du Seigneur des choses passées auxquelles je suis attaché, parce que c'est par ces choses-là que j'ai existé, c'est par ces choses-là que mon peuple s'est fait connaître, que mon pays s'est fait connaître, alors c'est normal que je ne vive pas la gloire de Dieu. Si nous voulons vivre pleinement les plans que le Seigneur a pour nous, nous devons nous détacher de tout ce qui est passé, et particulièrement des traditions, qui peuvent revenir même lorsque nous avons accepté le Seigneur. Tel que je suis, j'ai reçu une éducation. Et une éducation depuis mon enfance. Donc ce n'est pas quelque chose que, humainement parlant, nous pouvons effacer en un jour. Vous imaginez dire à une personne aujourd'hui qui a peut-être 30 ans, lui dire, écoute, tout ce qu'on t'a enseigné en mathématiques, 1 plus 1 égale 2, c'est faux. Mets-toi dans la tête qu'aujourd'hui que 1 plus 1 égale 3. Pour lui, ça va être un véritable bouleversement. Parce que depuis son enfance, le calcul qu'on lui a enseigné était le suivant. Alors lui dire qu'aujourd'hui tout ça était faux, ça devient très très compliqué. Et c'est ce que nous avons hérité par les cultures. Dans la manière dont nous avons été éduqués, dans la manière dont on nous a transmis certaines valeurs, ce sont des choses qui se sont fortement attachées à nous et qui font de nous ce que nous avons été normalement avant le Seigneur. Mais après le Seigneur, les choses doivent changer. Or, la réalité, c'est que même dans la vie des chrétiens aujourd'hui, nous retrouvons un attachement par rapport à ce qu'ils ont reçu autrefois. Et ça, c'est un problème. Aussi bien que on ne sait pas véritablement si la personne est chrétienne ou bien elle est camerounaise ou bien gabonaise, je ne sais pas. Donc, nous sommes devenus citoyens du ciel. Et notre identité, elle se trouve, la Bible dit, cachée en Christ. Et si nous avons quelque chose à mettre en avant, c'est la vie que nous avons reçue du Seigneur et non pas celle que nous avons reçue d'un pays, celle que nous avons reçue de nos pères, mais c'est celle que nous avons reçue de Dieu. On ne peut pas dire que le Seigneur est vrai, que le Seigneur est bon, en disant que ce que nous avons aussi autrefois dans le passé est bon. C'est faux. La Bible dit que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Or, lorsque l'on parle de création, la Bible nous dit qu'au commencement, il n'y avait rien. Donc, lorsque Dieu a créé, il a créé à partir de rien. De ce qui n'existait pas, il a rendu quelque chose visible. Donc, lorsque le Seigneur dit que nous avons été créés, c'est que le Seigneur, en nous créant, ne tient plus compte de tout ce qui était autrefois. Il fait véritablement de nous une nouvelle créature. Ce qui fait que ce qui était autrefois, pour Dieu, ça ne doit plus compter, ça ne doit plus exister. Parce que lorsque Dieu crée, il crée à partir du néant. Et c'est ce que nous étions, parce que nous étions voués à la destruction, voués à la perdition. Donc dès l'instant où nous venons au Seigneur, nous devons accepter, réaliser, prendre conscience que tout ce qui était derrière était mauvais, était faux. Le Seigneur dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Lorsqu'on a demandé à Lot de sortir avec sa famille de Sodome et Gomorre, on lui avait demandé de ne pas regarder en arrière, de considérer l'avenir que Dieu voulait pour lui, mais de ne pas regarder ce qu'il y avait derrière. Et cette réalité doit être valable encore aujourd'hui. Nous devons accepter que nous sommes nés de nouveau et que véritablement tout ce qui était derrière nous doit être passé, doit être définitivement passé, afin que nous vivions pleinement les promesses du Seigneur et l'identité nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Nous prenons Deutéronome chapitre 7. La volonté du Seigneur, c'est que nos yeux puissent véritablement s'ouvrir. Lorsque le Seigneur a commencé son ministère, dans Luc 4, lorsqu'il déroule le livre, il dit, voilà ma mission. Donc il est venu pour annoncer une bonne nouvelle, il est venu aussi pour donner la vue. Et la volonté de Dieu, c'est que nos yeux s'ouvrent aujourd'hui afin de véritablement discerner tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être dangereux pour notre vie spirituelle. Le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, tout simplement qu'il entende. Dieu nous laisse libres de prendre en considération et de prendre au sérieux ses avertissements. Personne d'entre nous ne peut voir ce qu'il y a dans le cœur de l'un et de l'autre. Mais Dieu le voit et Dieu connaît les attachements qu'il y a dans notre cœur. Je crois que le Seigneur parle toujours au temps favorable. Donc, ce que Dieu veut nous dire en ces temps-là, prenons cela au sérieux, bien-aimés, et ne nous disons pas que c'est peut-être pour l'autre, celui que nous connaissons, qui, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, ne peut pas se séparer de sa nourriture. Il veut toujours manger comme au pays, il veut toujours manger, il a du mal à s'adapter dans les milieux là où il va. Il a du mal à vivre avec les autres. Il critique toujours la culture des autres, la manière dont les autres vivent, parce que lui, il est toujours attaché à ce passé-là. Non, la réalité, c'est que c'est une parole premièrement pour nous. Ne voyons pas trop loin dans ce qui concerne le terme culture, mais considérons nous-mêmes déjà. Voyons déjà à nous-mêmes. Qu'est-ce que le Seigneur veut changer dans notre vie? Qu'est-ce que nous pouvons véritablement abandonner? Ou peut-être que nous avons abandonné, mais que nous sommes toujours, prêts de rattraper, prêts de reprendre. Lorsque peut-être nous allons voir les membres de nos familles, lorsque nous retournons dans notre pays d'origine, nous sommes toujours dans la tentation de vivre comme autrefois, de faire comme les autres pour être acceptés. Or, le chrétien doit premièrement être accepté de Dieu. Dieu ne nous a pas créés de nouveau pour que nous soyons encore acceptés par le monde. Il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et c'est une réalité que nous devons accepter. Il dit qu'il y aura la division dans la famille. Il y aura division. Et nous devons accepter toutes ces réalités-là parce que c'est ça que l'Évangile nous annonce. Dans Deutéronome 7, il est écrit au verset 1er, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Éthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. L'Éternel, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Amen. Voilà la parole que le Seigneur donne à son peuple. Il les a délivrés en les faisant sortir de la captivité en Égypte. Ils ont traversé le désert et le Seigneur leur avait promis de les emmener dans une terre où coule le lait et le miel. Et le Seigneur leur garantit que cela va s'accomplir, qu'il va chasser tous les peuples devant eux, sept nations qui sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts que le peuple d'Israël. Dieu dit qu'il va les combattre et les chasser afin que Israël entre véritablement dans la promesse. Lorsque nous lisons le livre de Lévitique des premiers chapitres, nous voyons que le Seigneur donne aussi des recommandations à son peuple par rapport à la vie terrestre. Il leur dit, voilà comment vivent les autres. Ils mangent de telles viandes, ils mangent de telles choses. vous, vous ne ferez pas comme eux. Vous ne mangerez pas de telle viande, vous ne mangerez pas de tel aliment, de manière à ce qu'il y ait une différence entre vous et les autres peuples. Il va donner des lois sur la vie terrestre toujours, mais sur la vie de groupe, lorsqu'il y a la maladie. Il va donner des lois sur la manière dont l'homme doit se comporter avec sa femme et vice-versa. Donc, toutes sortes de lois qui montre que le peuple d'Israël doit être séparé du reste des nations. Donc, il va donner plusieurs préceptes pour montrer qu'à Israël, que vous ne pouvez pas vivre comme les autres, vous ne pouvez plus vivre comme les autres. Comme il est dit dans ce passage, vous serez saints, donc vous serez mis à part pour moi. Je vous ai choisi parmi tous les peuples des nations afin que vous, vous m'apparteniez. Et c'est ce que l'enfant de Dieu est aujourd'hui. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu nous a sortis parmi tous les peuples, parmi toutes les nations, afin que nous soyons en lui. Or, le Seigneur ne se trouve pas, je dirais, dans les cultures humaines. Le Seigneur ne se trouve pas dans les modes humaines. Le Seigneur est à part. La logique du ciel n'a rien à voir avec la logique de la terre. Donc, le Seigneur ne peut pas prétendre ou se prévaloir être pour des Chinois, être pour tel ou pour tel. Non, Dieu est Dieu et la logique du ciel appartient au ciel. Et nous, nous sommes appelés maintenant à vivre selon la logique du ciel. C'est la même chose que le Seigneur a voulu faire avec le peuple d'Israël en lui disant « Tu ne vivras pas et tu ne feras pas comme les autres nations. » Parce que si tu le fais, si tu donnes tes fils à leurs filles et que tu prends aussi leurs filles, ils risquent de vous détourner de moi. Donc la peur de Dieu n'était pas liée au fait que ce peuple était nombreux. Parce que Dieu dit « Ce peuple est nombreux. » Cette nation, beaucoup plus nombreuse que vous, mais moi je vais les battre. Vous les dévorez par interdit. Donc le peuple en lui-même ne faisait pas peur à Dieu par le nombre qu'il était, par la puissance qu'il avait. Mais ce qui faisait peur à Dieu, c'était que son peuple à lui se détourne de Dieu pour s'attacher à la vie des peuples étrangers, pour vivre comme les peuples étrangers. Le Seigneur voulait qu'il y ait une séparation claire entre la manière dont les autres vivent et celui dont son peuple devait vivre. Et cette différence devait être vue d'une manière physique. Dans le mode de vie, on devait discerner que tel est de Dieu et que tel n'est pas de Dieu. Donc ce qui dérangeait le Seigneur, c'était le mode de vie. Et lorsqu'on parle de culture, c'est un ensemble de choses dans lesquelles il y a les traditions, dans lesquelles il y a les coutumes, qui vont influencer notre manière de manger, qui vont influencer notre manière de parler, qui vont influencer notre manière de fêter, notre manière de pleurer les morts, qui va vraiment influencer notre vie terrestre. C'est par les traditions, par les coutumes, par la culture que l'on fait, on peut faire la différence entre les différents peuples et même dans le même peuple, entre les différentes ethnies. Donc la culture va très très loin afin de différencier, afin de diversifier, que l'on puisse faire une différence entre qui est de tel peuple et qui est de tel peuple. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque je parlais de l'éducation, c'est quelque chose qui est ancré. Et puisque c'est lié à la tradition, il y a la volonté des hommes de vouloir perpétuer cela. Il y a la volonté des hommes de le transmettre de génération en génération. C'est par les cultures aujourd'hui que les peuples se font aussi identifier. Donc la culture est liée même à l'identité de la personne. De la même manière que lorsqu'on me voit, ce qui fait mon identité, c'est ce que vous avez en face de vous, mais c'est aussi mon nom, le nom que je porte. Donc lorsque je suis identifié, lorsque je voyage, donc sur le passeport, il y a ma photo, mais il y a aussi mon nom, il y a aussi ma date de naissance. Donc il y a un tout pour reconnaître que c'est moi. Et cette volonté donc, que les peuples ont, c'est que ce tout-là qui caractérise chaque peuple soit transmis de génération en génération afin que le nom du peuple demeure. Et c'est là aussi où les gens, depuis la tour de Babel, ont voulu construire, la Bible dit, pour se faire un nom. Donc ils ont voulu construire quelque chose pour se faire un nom, quelque chose, même après eux qui allaient exister et faire perpétuer le nom de ceux qui étaient à l'origine de cette ville-là. Donc il y a la volonté de le transmettre de génération en génération. Et c'est ce qui fait que les cultures sont véritablement ancrées, parce que ça fait partie même de l'éducation. Ce n'est plus simplement de transmettre un savoir théorique, comme on pourrait apprendre des cours à l'école, qui nous serviraient pour des examens, mais c'est d'apprendre quelque chose qui va former la personne et faire l'identité de la personne. Donc les cultures ont existé, existent, et elles font l'identité d'un peuple, l'identité d'un pays. Et d'un pays à l'autre, on peut voir que les cultures changent. Dans la manière de manger, on va voir des pays où le matin, eh bien, on peut manger de la charcuterie. Ce qui, en France, quelquefois, choque des personnes de savoir que, ben, tiens, tu manges du saucisson le matin, mais ça ne se fait pas. Mais il y a d'autres pays où ils le font et c'est totalement normal. Il y a des gens qui mangent à 15 heures. Eh bien, il y a des gens très traditionnels en France qui disent, mais non, on ne peut pas manger à 15 heures, le repas c'est à midi. Mais il y a d'autres pays où ça se fait comme ça. Donc, on va faire la différence véritablement dans la pratique de chaque jour entre telle nation, entre tel peuple et tel peuple. Donc, la culture est vraiment ancrée dans la vie. Mais le Seigneur a voulu, il a dit à son peuple, moi, je vous ai sorti des nations. Je vous ai sorti des nations afin que vous soyez saints, que vous m'apparteniez et que vous viviez selon mes directives. Et c'est ce que nous sommes devenus. Un peuple saint que Dieu a arraché du monde afin de ne plus vivre selon les traditions humaines, selon les coutumes humaines, mais à vivre selon la parole de Dieu. Nous voyons les conséquences de ce que peuvent former des cultures dans divers peuples. Les guerres, les chocs de culture qu'il peut y avoir et qui produisent des guerres lorsque les cultures des uns et des autres ne sont pas acceptées. Nous voyons comment les cultures peuvent détruire lorsque, des fois, ce n'est pas automatique, mais on voit lorsque même des personnes se rencontrent, même dans des couples, quelquefois, on peut, dans la gestion des fois, des couples, la gestion, nous nous rendons compte que quelquefois, des personnes ne s'entendent pas parce que chacun de son côté est attaché à ses propres traditions. Chez nous, ça se passe comme ça. L'autre dit aussi, mais chez moi aussi, ça se passe comme ça. Et ça emmène des divisions. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous renonçons à toutes ces choses-là afin de nous attacher uniquement à la parole de Dieu. Je reconnais que tout ce qui est passé est derrière moi et que ce qui est vrai, c'est ce que le Seigneur me demande de pratiquer. Et lorsque tout le monde se met au même niveau, lorsque tout le monde accepte de pratiquer la même culture de la Bible, finalement, nous pouvons véritablement être dans le même troupeau. Nous pouvons véritablement aller dans le même sens. Je disais une fois, et ce qui est vraiment désolant, regrettable, je dirais même honteux pour l'Église, c'est de voir qu'il y a des églises où nous entendons communauté haïtienne, église des gitans, église de ceci, église de cela. Ça ne reflète pas l'Église de Dieu. La Bible dit que lorsque dans l'Apocalypse, les nations marchaient, il y avait des gens de toutes tribus et de toutes langues. C'est ça qui caractérise la vraie Église. C'est tout peuple, toute nation qui ont accepté de renoncer à leur éducation, renoncer à leur culture pour vivre selon une seule loi, la loi de Dieu, la loi du ciel. Ainsi, nous pouvons véritablement avancer et aller ensemble. Et c'est ça qui est important. Tant que nous ne renonçons pas à ces choses-là, bien-aimés, il y aura toujours des divisions. Il y aura toujours des querelles. Il y aura toujours des murmures. Il y aura toujours des critiques. Parce que l'une des conséquences de la culture aussi, c'est la fierté de dire chez nous c'est comme ça. Et lorsqu'on est fier comme ça, on a toujours l'impression d'être supérieur aux autres. On a toujours l'impression que nous, la manière dont on fête les mariages, c'est mieux que les autres. La manière dont nous, on pleure les morts, c'est mieux que les autres. Donc la tradition, les cultures vont nous amener à entrer dans un orgueil qui va nous emmener automatiquement à nous comparer aux autres, à avoir l'impression que ce que nous faisons, c'est toujours mieux que les autres. Or, la réalité que ce que nous faisons, c'est zéro. Parce que ce qui est vrai, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Et on doit renoncer à ça. L'évangile ne va pas avec la culture. L'évangile doit être vécu d'une manière totale. Et la volonté de Dieu, c'est ne vous associez pas à ces peuples-là. Si vous le faites, ils risquent de vous détourner de moi. Alors Dieu ne nous a pas sortis du monde pour que nous puissions retourner et faire comme les autres. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions prendre conscience que la culture est négative. Être attaché à sa culture ne va pas avec l'évangile, ne va pas avec la parole de Dieu. Il faut faire le choix, soit d'être chrétien, ou bien d'être, je ne sais pas, d'être français, d'être chinois, d'être anglais, mais on ne peut pas vouloir prétendre être les deux. Nous sommes nés congolais, nous sommes nés français, certes, mais nous sommes désormais enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu n'a pas, je dirais, un nom de nation écrit sur son front. Il est enfant de Dieu et ça se voit par sa manière de vivre. Sortons des traditions, bien-aimés. Ce sont les traditions, les cultures qui nous empêchent de vivre un évangile libre. Il y a des gens qui n'aiment pas être dérangés. Parce qu'en France, à partir de telle heure, on ne dérange plus les gens. À partir de telle heure, c'est moi, ma femme et mes enfants. À partir de telle heure, c'est comme ça. On a fait le repas pour 3-4 personnes. Tout est calculé au bol près. Ce qui fait que lorsqu'une personne nous visite, on va attendre jusqu'à ce qu'elle quitte avant de manger. Voilà jusqu'où les traditions nous emmènent à avoir des positions égoïstes. Et ça ne cadre pas avec l'évangile. On doit sortir de ça afin que l'évangile soit véritablement vécu. Tout est fait au compte-gouttes en fonction de nous. On compte au millimètre près en fonction de nous. On ne tient pas compte des autres. On ne tient pas compte des autres. On a l'occasion peut-être d'acheter une voiture avec 5 places, mais pour je ne sais quelle raison on achète seulement 2 places. On ne se dit pas, bon, peut-être 3 places, ça pourra toujours servir s'il faut emmener des gens. Donc ça nous emmène dans un égoïsme. On doit vraiment sortir de la culture et avoir la logique biblique qui est liée à l'attention des autres, qui est liée au regard vers les autres. Et nous, nous passons après. C'est ça l'évangile. Le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc nous vivons pour les autres. Nous vivons pour donner. Et Dieu, lui, sait comment il nous le rendra. Or, les cultures, tout est organisé afin que l'homme soit élevé, qu'il soit reconnu et distingué parmi les uns et les autres. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu n'a pas craint que les peuples qui allaient combattre Israël soient nombreux. Le Seigneur a craint tout simplement que son peuple s'associe avec ces nations-là, de peur qu'ils ne deviennent comme eux. Le Seigneur a voulu qu'il y ait une différence. Et cette différence doit exister encore aujourd'hui. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivons pas selon le siècle présent. Ne vivez pas selon le siècle présent, l'apôtre Paul dit. Mais soyez transformés, soyez renouvelés. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu par lequel nous pouvons comprendre la pensée de Dieu. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Il juge de tout parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Et c'est donc possible de vivre ce que l'apôtre Paul dit. Il dit « afin que vous soyez capables de discerner ce qui est bon, agréable. Ce qui est bon pour Dieu, ce qui est agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne devons pas vivre en fonction des autres, en fonction des nations. » Mais nous devons vivre en fonction de la parole de Dieu. Le Seigneur dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur a fait de nous une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle créature. Et dans Jean 3, la Bible dit qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Comme le vent souffle, on ne sait d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de toute personne qui est née de l'esprit. Il ne vit plus selon la chair, il ne vit plus selon lui. Mais il vit tout simplement selon la logique du ciel. Et la logique du ciel ne va pas en accord avec la logique de la terre, qui est conduite, dictée, imposée par les cultures et par les traditions. Et nous voyons dans certains pays quand même certains en sont esclaves, certains en souffrent. Il y avait un exemple qui avait été donné autrefois. On sait qu'il y a beaucoup de pays, surtout en Afrique, qui préconisent la dot. C'est devenu vraiment quelque chose même reconnu par l'État. Ce qui fait que même lorsque tu vas te marier à la mairie, l'État peut te demander est-ce que la question de la dot auprès de la famille a été réglée. Donc c'est quelque chose qui est rendu, je dirais, qui est presque imposé avec un montant, mais qui est quand même imposé, qui est devenu normal. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont eu cette éducation-là, même certains étant devenus chrétiens, continuent à faire ces choses-là. Le problème, ce n'est pas de le faire. On peut le faire d'une manière symbolique. La Bible en parle aussi. Mais la question, c'est que c'est devenu un véritable commerce. Et les gens s'y soumettent par habitude, s'y soumettent parce que c'est ce qu'ils ont reçu et ça devient quelque chose de normal. Or, l'Évangile est venu aussi afin de briser toutes ces choses-là, afin de briser tout ce qui est lié à la terre. Et nous, nous devons sortir de cela sans avoir peur de ce qu'il y a en face de nous, sans avoir peur de ce que diront les autres. Les autres parleront toujours, le Seigneur a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Alors on doit aussi accepter d'être contrarié par les autres, d'être rejetés par rapport à nos choix de vivre l'évangile et de sortir, je dirais, de sortir des cultures. De sortir des cultures dont on doit arrêter avec toutes ces choses-là, bien-aimés. On ne peut pas vivre cela et vouloir vivre aussi les promesses de Dieu. Il y a un choix à faire et il faut que nous fassions le bon choix parce que nous voulons aussi voir la gloire de Dieu. Sortons des traditions, sortons des cultures qui font la guerre à notre âme, qui font la guerre à notre esprit. Nous, nous ne voulons pas vivre selon la chair, mais nous voulons vivre d'une manière différente. Et cette différence doit se voir. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça la volonté du Seigneur, que nous ne vivons pas selon le siècle présent, selon les méthodes et les traditions d'aujourd'hui, mais que nous vivions uniquement selon la parole de Dieu. Arrêtons de dire « chez nous, ça se passe comme ça ». Chez moi, ça se passe comme ça. Moi, j'ai été élevé comme ça. Alors, je veux aussi transmettre ça à mes enfants. Bien-aimés, quel meilleur héritage pouvons-nous laisser à nos enfants que de connaître Dieu? Quel héritage? David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et celui qui est juste dans le Seigneur. Donc David nous dit que par là, Dieu s'occupe aussi de sa postérité. Quel meilleur héritage pouvons-nous laisser aux enfants que de connaître Dieu? Nous avons le souci de laisser des maisons, de laisser de l'argent, une assurance vie au cas où. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que tout ça est secondaire. Ce qui est important, c'est de laisser à nos enfants comme héritage la loi de Dieu. C'est ça qui compte, bien-aimés. C'est de laisser la loi de Dieu, que de génération en génération, nos enfants connaissent qui est Dieu. Parce que c'est par Dieu que l'on connaît le vrai bonheur, c'est par Dieu que nous pouvons vivre longtemps et vivre la véritable vie sur la terre. Les histoires des traditions et des coutumes divisent. Et les hommes sont très très forts pour savoir les utiliser comme ils veulent, de savoir les utiliser comme ça les arrange, bien-aimés. Et lorsqu'on est dans ces habitudes-là. Parce que lorsqu'on est dans la culture, il y a la notion d'habitude. Il y a la notion de répéter, de refaire les mêmes choses. Et lorsqu'on répète et qu'on fait les mêmes choses, on en devient même soumis. Or, un enfant de Dieu ne peut pas être soumis à quoi que ce soit. La seule soumission à laquelle nous devons accepter, c'est d'être soumis à Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être dépendant de quoi que ce soit. La dépendance de quelque chose manifeste clairement que Jésus-Christ n'est pas Seigneur sur tout. Or, si Jésus-Christ est notre Seigneur, il ne peut plus y avoir une autre soumission à quoi que ce soit. Mais à force de faire les choses, on entre même dans une forme de religiosité. Parce que dans la culture, il y a aussi la religion. Beaucoup d'entre nous, on a eu dans notre éducation la notion catholique. Bien qu'on ne le pratiquait pas, bien que même les parents ne les pratiquaient pas, on nous forçait le matin à aller à l'église, on nous forçait à aller au catéchisme, alors que la vie qu'on manifestait, que les parents manifestaient, n'avait rien à voir de près ou de loin, ni avec le catholicisme, ni avec la Bible, mais c'était devenu quelque chose de traditionnel, c'était devenu quelque chose de notre éducation. Donner des noms liés aux saints, faire toutes sortes de cérémonies auxquelles on ne croit même pas, faire baptiser des enfants, et souvent, je discutais une fois avec ma propre mère, qui a fait baptiser ceux qui sont venus après moi, je lui demande un jour, mais le baptême c'est quoi? Elle n'a jamais su m'expliquer ce que le baptême. J'ai dit, donc tu as fait à mes petits frères des choses que toi-même tu ne sais même pas. Uniquement parce que c'était devenu dans la culture, c'était devenu dans la tradition. Et même nous aujourd'hui, qui connaissons la vérité, on peut aussi revenir dans la culture en venant régulièrement à l'église. Parce que bon, peut-être c'est nos parents nous ont emmenés, pour ceux peut-être qui ont grandi dans les églises dites de réveil, ils viennent simplement par habitude. Il n'y a plus une véritable communion avec Dieu. Et cette habitude-là fait partie maintenant de la culture. Où il est dimanche, donc puisque c'est dimanche, il y a église. C'est devenu une habitude. Ce n'est plus vraiment une recherche personnelle de Dieu. Ce n'est plus une recherche de communion avec Dieu. Mais c'est tout simplement une habitude à laquelle on se soumet, quelquefois même simplement pour soulager la conscience. Et on fait entrer ça dans la culture, dans nos habitudes. Lundi, c'est comme ci, mardi, c'est comme ça, mais surtout dimanche, c'est l'église. Alors que la vie en elle-même ne témoigne pas véritablement que nous sommes nés de nouveau. La vie que nous vivons ne manifeste clairement que que cette séparation que Dieu a voulu avec les autres nations ne se manifeste pas. Et nous pratiquons l'Église uniquement par habitude. Et nous entrons, nous faisons entrer ça dans une forme de culture, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui font baptiser leur enfant. Des gens qui ne croient pas en Dieu, mais le jour du 25 décembre, qui se rendent dans les temples catholiques. Voilà, uniquement par tradition, uniquement par religiosité. Et lorsque nous rentrons dans la religiosité, bien-aimée, on entre dans la même chose. C'est le même processus de culture et nous risquons aussi de le transmettre aussi à nos enfants. Nous venons à l'église sans goût. Notre vie à la maison ne manifeste pas clairement que notre position est claire pour le Seigneur. Et les enfants qui nous suivent, eh bien, grandissent avec cette habitude-là, de se dire, eh bien, on peut être païen à la maison et venir à l'église chaque dimanche. Et ils grandissent avec ça et ils ont des difficultés pour se convertir. Bien qu'ils participent à l'école du dimanche, mais le témoignage qu'ils ont des adultes montre clairement que maintenant, l'église, ça fait aussi partie de la culture. Voilà, c'est plus une vie, une véritable vie selon Dieu, mais c'est tout simplement une culture. C'est quelque chose qui est devenu traditionnel. Et le danger, bien-aimé, c'est que lorsqu'on est dans les cultures, dans les traditions, on croit être dans la vérité. On croit que c'est ça qui est bien. Avant, lorsque je n'étais pas converti, beaucoup de choses que j'ai voulu enseigner à mes enfants, c'est des choses que j'avais reçues et je le faisais avec assurance. Parce que j'étais sûr que c'était ça dans la vérité. Quand tu es bébé, on te lave dans la bassine, on te met quelques potions dans l'eau. D'autres, on met un os d'animal. Donc, beaucoup de sortes de rituels comme ça. Et on veut le répéter en pensant bien faire. Et tu grandis avec cette logique-là que c'est la vérité. Alors, pour qu'une personne t'en détrône, c'est compliqué. Mais le seul moyen d'être totalement libéré de ça, c'est de vivre l'Évangile. C'est d'accepter l'Évangile. Non pas d'y adhérer, mais d'accepter de le vivre. Que ça soit quelque chose de pratique en nous. Que ça soit notre vie. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est quelque chose qui doit devenir naturel, qui doit maintenant être notre identité. Dans notre manière de vivre, on doit pouvoir discerner que véritablement je ne suis plus du monde. Même si les gens de l'extérieur ne savent pas clairement expliquer, mais ils doivent bien sentir que nous ne sommes pas comme les autres. Même s'ils ne comprennent pas le Seigneur, même s'ils n'ont peut-être pas entendu du Seigneur, mais la manière de vivre doit manifester qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les peuples des autres nations. Cette différence doit être visible parce que c'était ça la volonté de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature bien-aimée. Faisons attention, même dans l'Église, de ne pas faire des habitudes dans notre manière de fréquenter et de vivre l'Église, de peur que ça devienne aussi d'une manière traditionnelle. La culture fait partie, bien-aimé, comme je l'ai dit, de l'identité, de l'éducation et emmène beaucoup de conséquences négatives. Faisons vraiment le choix de sortir de là et de comprendre que ça ne peut pas aller avec l'Évangile. Nous prenons Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, à partir du verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. C'est un passage que nous connaissons, et bien souvent on l'utilise pour expliquer lorsque des personnes vivent la délivrance. Que cela nécessite vraiment une vie de sanctification. Car lorsque on chasse un démon, il s'en va, parce que nous avons reçu l'autorité de Dieu. Mais il revient voir de temps en temps, est-ce que la maison est vide? Il vient voir de temps en temps, est-ce qu'il y a la vie de Christ dans cette maison? Est-ce que la vie de Dieu est manifestée? Est-ce que la vie de Dieu est vécue? Et s'il trouve que ce n'est pas le cas, la Bible dit qu'il revient avec des esprits encore plus méchants. Et la condition qui était la sienne, premièrement, devient pire. Et là, ça devient très, très compliqué. Beaucoup qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté de vivre la parole de Dieu, ont renoncé à beaucoup de choses, ont renoncé à leur propre culture. Mais cet exemple-là nous montre que les choses sont toujours à la porte. Les choses sont toujours à l'affût si nous ne prenons pas garde. Tenons compte de ce que nous étions autrefois. Tenons compte des esprits qui animent nos pays, des esprits qui animent nos familles. Et mettons-nous dans des conditions afin d'éviter que ces choses-là reviennent facilement. Il y a des pays où avoir 4 femmes, c'est ça. Dans ta famille, peut-être que tes oncles sont dans ce cas-là. Peut-être même que ton père était dans ce cas-là. Donc l'esprit qui animait ces choses-là se tient toujours comme à la porte. Alors si dans tes relations avec les sœurs, dans tes relations avec les collègues féminins au travail, tu ne fais pas attention, tu n'adoptes pas un comportement sain, un comportement droit, un comportement transparent. C'est-à-dire les échanges que vous avez ne sont pas ambigus, c'est clair. Que je ne cherche pas à t'animer ou à te transmettre des mauvaises pensées, que ce soit homme ou femme. Si les relations sont claires, alors on se préserve du danger. Mais si étant exposé, parce que les antécédents familiaux, les liens du pays manifestent clairement que la polygamie est quelque chose de normal, accepté, ou même lorsque n'est pas accepté, il est imposé, on se met dans des conditions qui favorisent le retour de ces esprits-là, peut-être dans lesquels nous étions autrefois, alors les portes s'ouvrent aussi. Et beaucoup qui avaient abandonné les cultures ne se mettent pas dans des conditions pour ne plus être tentés, ne se mettent pas dans des conditions pour être préservés afin de tenir ferme. Il y a des personnes, comme je discutais avec un frère au Maroc et un frère aussi qui était parmi nous autrefois, il y a des peuples, lorsqu'ils se retrouvent dans des pays étrangers, la première chose qu'ils font, c'est de chercher qui est de sa nationalité. Ils créent des associations que entre eux. Et je disais à un frère qui est au milieu de nous, je dis, mais comment toi, tu es chrétien, tu as des frères ici, mais ton seul souci, c'est que dès ça finit, tu cherches à aller dans les associations avec les gens de ton pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'en faisant les choses ainsi, forcément tu risques d'être tenté à toutes les choses du passé. Et bien aimé, ça ne manque pas. On crée des associations, on crée des églises entre nous, et lorsque vous voyez comment vivent ces églises-là, vous voyez clairement qu'elles sont dirigées par la culture. Ce n'est plus l'évangile qui est mis devant, mais tout est fait en fonction de la culture. On ne va plus faire les mariages en fonction de la parole de Dieu, mais on fait les mariages en fonction de la culture et en emmenant la culture dans l'église. Ce qui fait automatiquement qu'une personne qui n'est pas de la même culture ne pourra jamais vivre dans cette église-là. Soit on l'imposera à vivre comme les autres, ou soit il ne sera jamais à l'aise. C'est à nous de nous préserver et de savoir d'où nous venons, de savoir dans quel contexte familial nous étions autrefois, et de faire en sorte de fuir ces choses-là. Ce que nous avons décidé volontairement de quitter, si nous ne faisons pas attention, ces choses-là peuvent revenir automatiquement. Elles peuvent revenir à notre insu, elles peuvent revenir contre notre volonté, et nous pouvons céder à ces choses-là. Mais pour cela, nous devons comprendre que la culture ne va pas avec l'évangile. La culture ne va pas avec l'évangile. Acceptons de renoncer à ce qui était derrière. Acceptons de renoncer à ce qui faisait notre nous, notre moi, ce qui faisait notre peuple. Tout ça devant le Seigneur, ça ne compte pas. Devant le Seigneur, ça ne compte pas. Dans la Bible, on ne connaît pas les histoires des ethnies ou ces choses-là. Dans le ciel, il n'y aura pas ces choses-là. nous nous sommes emmenés à vivre selon la logique du ciel. Et pour cela, nous devons renoncer à ce qui est passé. Nous devons renoncer à ce qui est passé. L'homme a cette tendance de vouloir coloniser, de vouloir dominer, de vouloir toujours convertir les gens à ce que lui, il croit être vrai. Et si nous n'abandonnons pas les histoires de culture et de tradition, ça ne marchera pas les uns avec les autres. Ça ne marchera pas dans l'Église bien-aimée. Ça ne marchera pas. Non seulement ça ne marchera pas, mais en plus nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Et nous pouvons dire où sont les miracles du Seigneur. On va regarder simplement le péché. On va regarder la manière des uns et des autres de s'exposer en tant que chrétien ou bien en tant que chrétien boiteux, c'est-à-dire charnel. Mais la réalité, c'est est-ce que nous-mêmes nous avons renoncé à ce qui est passé? Est-ce que nous considérons que, quelles que soient les cultures, même qui semblent faire du bien à l'homme, bibliquement, ne peut pas être vécu, ne peut pas être associé à la parole de Dieu? Le Seigneur a dit, vous êtes mon peuple. Je vous ai choisi pour que vous soyez un peuple saint. Je vous ai sorti de toutes les nations pour que vous soyez mon peuple. Et ce n'est pas pour que vous viviez comme eux. Ce n'est pas pour que vous les imitiez, mais c'est pour que vous viviez selon mes ordonnances, selon mes commandements. Quelles que soient les cultures ou les traditions, l'éducation que nous avons eue, acceptons de renoncer à cela. Même dans ce qui peut paraître petit, mais la Bible dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Considérons ce qu'on dit, bien-aimé. Ça ne veut pas dire que celui qui est chinois ne peut pas manger la nourriture qui vient de Chine. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est d'y être soumis. C'est-à-dire, c'est comme si notre vie ne pouvait pas être autrement sans tenir compte de ce qui était passé. Si Dieu nous fait la grâce d'aller dans notre pays d'origine, de manger ce que nous aimons manger, le problème n'est pas là. Mais nous, nous devons conserver notre identité. Nous ne devons plus vivre comme les autres, à suivre les rites, les rituels qui se font. Lorsque un enfant naît, on le consacre de telle manière. Lorsque un enfant naît, il faut lui donner le nom de son père, ou bien donner le nom de son grand-père, lorsque c'est le premier fils. Et nous voyons ça même chez les chrétiens, qui tiennent à tout prix à donner à leur enfant, surtout si c'est un garçon, je ne sais pas pourquoi, à donner le nom de son papa, donner le nom, son propre nom. Donc vous, tu es là, tu entends Davis, mais oh, c'est pas moi, c'est mon fils qu'on appelle. Donc à tout prix pour vouloir transmettre quelque chose, c'est-à-dire conserver quelque chose. C'est le refus de laisser passer les choses. On veut faire demeurer les choses d'une manière éternelle. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Et nous aussi, nous ne devons pas fonctionner comme ça. Je me souviens lorsque j'allais avoir mon fils Zacharie, les gens m'imposaient pour que je donne le nom de mon père. Mais il faut que tu donnes le nom de ton père parce que les autres n'ont pas eu des garçons, mais c'est toi qui as eu, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. J'ai eu la pression, mais moi j'avais reçu clairement le prénom que je devais donner. Donc j'ai mis ce prénom-là, mais toujours avec la tentation de mettre bon, même en deuxième prénom. Mais je n'ai pas cédé, Dieu m'a donné la force, j'ai dit non, ce n'est pas normal. Je ne mettrai qu'un seul prénom. Eux n'ont qu'à faire des enfants et donner le nom de leur père s'ils veulent. On ne doit pas être lié par les traditions. On ne doit pas être lié par la culture. La culture ne va pas avec le Seigneur. Il n'y a que deux camps. Ou bien le camp de Dieu, ou bien le camp de l'ennemi. Au milieu, ça n'existe pas. Le Seigneur dit clairement que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi divise. Le Seigneur a été d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que dans ces paroles-là, il n'y a pas de flou. Il ne peut pas avoir deux interprétations. Dans les paroles du Seigneur, tout est droit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père par moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc lorsque le Seigneur a manifesté clairement qu'il y avait deux camps, il n'a pas laissé sous-entendre qu'éventuellement il pourra en avoir un troisième. C'est faux. Ou bien vous êtes avec moi, ou bien vous êtes contre moi. Au milieu, ça n'existe pas. Certains pensent être au milieu, peut-être par ignorance, mais si c'était le cas encore aujourd'hui, bien-aimés, soyons conscients qu'au milieu, ça n'existe pas. Ou bien on est avec Dieu, ou bien on est contre Dieu. Et si on l'est, je dirais d'une manière peut-être involontaire, alors l'ennemi nous utilisera quand même pour être contre Dieu d'une manière visible. Mais c'est à nous de faire le choix clairement d'être avec le Seigneur et de renoncer à toutes ces choses-là. L'évangile ne rime pas avec culture. Ou bien c'est l'évangile, ou bien ce sont des cultures. Mais je crois que si nous avons choisi le Seigneur, c'est que nous avons aussi choisi de marcher selon sa parole. Que le Seigneur nous aide à faire le choix si le choix n'a pas été encore fait. Que le Seigneur nous aide à abandonner ce que peut-être nous n'avons pas encore abandonné, peut-être par pression de la famille, par pression de notre entourage. Et que Dieu nous aide aussi, si nous avons fait le choix, et bien véritablement à tenir ferme, quelles que soient les tentations, quelle que soit l'oppression, quelles que soient les pressions, que nous puissions tenir ferme et ne pas participer au feu étranger, mais à demeurer véritablement enfant de Dieu dans cette différence-là qui doit être visible aux yeux de tous. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur de gloire, une fois de plus. Une fois de plus, Seigneur de gloire, parce que c'est toi qui fais les bonnes choses dans notre vie. Seigneur, nous savons et nous sommes conscients que ce qui était autrefois, Seigneur, était en abomination devant toi. Dans ton amour, Seigneur, dans ta fidélité, tu t'es souvenu de nous et tu nous as sortis du monde afin de faire de nous ton peuple. Et nous avons fait le choix, Seigneur de gloire, de marcher avec toi. Mais nous nous humilions encore aujourd'hui devant toi, Seigneur, parce que nous sommes conscients de nos faiblesses. Nous sommes conscients, Seigneur, de quoi, quelquefois, de notre manque de fermeté, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur de gloire, te dire que c'est toi que nous avons choisi. Nous voulons renoncer véritablement à tout ce qui est passé. Nous voulons renoncer, Seigneur de gloire, à tout ce qui est culturel, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est coutumier, Seigneur, afin de vivre, Seigneur de gloire, en étant en discernant ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne voulons plus vivre, Seigneur de gloire, selon le siècle présent, qui nous impose, Seigneur Dieu de gloire, des rituels, Seigneur, qui nous impose des habitudes, mais nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Car il est écrit que chaque jour suffit à sa peine, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher d'une manière religieuse, mais nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire, nous prions afin que tu nous aides à tenir ferme, Seigneur, devant les pressions des membres de nos familles, Seigneur, qui veulent nous imposer à vivre dans le passé. Nous voulons tenir ferme, Seigneur de gloire, devant les incompréhensions, devant les moqueries, Seigneur, parce que tu as dit que celui qui aura honte de toi, toi aussi tu auras honte de lui. Seigneur, nous ne voulons pas avoir honte du choix de vie que nous avons fait, Seigneur. Mais nous voulons véritablement demeurer dans ta parole. Seigneur, il est écrit que si nous demeurons en toi, toi aussi tu vas demeurer en nous. Alors tout ce que nous te demandons, Seigneur de gloire, tu nous l'accorderas aussi. Tu as dit, Seigneur de gloire, à ton peuple, voici les bénédictions que tu auras si tu obéis à ma voix. Seigneur, nous sommes conscients que bien souvent lorsque nous ne voyons pas ta gloire, ce n'est pas parce que tu es loin, mais parce que nous, nous nous éloignons, Seigneur. Parce que nous ne pratiquons pas, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu attends de nous. Mais Seigneur, si nous venons devant toi aujourd'hui, parce que nous croyons que tu es fidèle, tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur, avec assurance, parce qu'il est écrit que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est là, Seigneur de gloire, notre joie, c'est de savoir que tu n'as pas changé, que tu pardonnes encore aujourd'hui, Seigneur, que tu restaures encore aujourd'hui, que tu transformes encore aujourd'hui. Seigneur, tu n'as pas changé. Et nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire, parce que toi qui as eu compassion de Lazare, toi qui as eu compassion de Paul, toi qui as eu compassion de David, Seigneur, tu auras aussi compassion de nous. Éternel Dieu, tu nous as sortis, Seigneur de gloire, afin de faire de nous un peuple saint, un peuple pour toi, Seigneur. Et nous voulons vivre pour toi. Nous voulons être à ton service, Seigneur, en renonçant à tout ce qui est lié au monde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, aide-nous, parce que sans toi, nous ne sommes rien, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia.